Faisons résonner le nom du Seigneur ce matin.
Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom, que ton nom résonne en ce lieu.
Oui, Seigneur.
Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu.
Qui n'ont plus de tentations ici? Est-ce qu'il y en a qui en ont des tentations? On va regarder 5 événements avec lesquels Jésus a été tenté. Puis qu'est-ce que ça peut nous enseigner avec nous? La Bible nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, qui ne puisse nous comprendre, qui ne puisse nous comprendre. Au contraire, il a été tenté en toute chose, sans commettre de péché. » Puis l'autre verset, ça dit, « Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Amen. Non seulement que le Seigneur peut nous comprendre, mais il peut nous secourir. Il peut être là pour nous-mêmes. Lorsqu'on a la tentation de se débrouiller nous-mêmes, lorsqu'on a la tentation d'abandonner, lorsqu'on a la tentation de s'éloigner de Dieu, au contraire, tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers lui. Il peut nous comprendre. Il peut compatir. Il peut vraiment être notre guide et nous délivrer. Il peut nous secourir. On va regarder un premier verset. Ça dit, « Il fut tenté de faire un miracle pour satisfaire ses besoins personnels. » Dans Matthieu 4, ça dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Imaginons-nous si le diable a voulu tenter Jésus, comment, à plus forte raison, nous autres aussi, de temps en temps, on va être tentés. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Y a-t-il quelqu'un qui peut douter de ce passage-là? Il eut faim. C'est certain qu'il a eu faim. 40 jours et 40 nuits, jeûné. Le tentateur s'est approché de lui et dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus ne pouvait pas faire cela. Jésus ne pouvait pas faire cela. Les miracles, les signes, ce n'était pas pour se satisfaire lui-même. C'était pour montrer qu'il était fils de Dieu. C'était pour montrer sa compassion envers l'humanité. Pas pour se servir lui-même. Pas pour se servir lui-même. Lui, Jésus, voulait s'identifier à nos faiblesses. Puis là, lui, il a répondu, il est écrit, parce que Jésus répondait par la parole. On est-tu content? Hein? Mes frères et sœurs, c'est bon pour nous des fois. Qu'on pourrait retourner l'ennemi puis dire, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça montre, un verset comme ça? Ça montre que souvent, dans nos vies, on va aller à Dieu pour la satisfaction de nos besoins naturels. Le manger, le boire, l'habillement, nos jobs, nos affaires. On va aller à Dieu pour, premièrement, la satisfaction de nos besoins naturels. C'est ça que Satan vient faire à Jésus, là. Il dit, mange en premier. Mais nous, souvent, dans nos vies, en tant que croyants, des fois, lorsqu'on est venu au Seigneur, on vient au Seigneur, puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on va à Jésus seulement que pour nos besoins personnels, pour des jobs, pour toutes sortes de choses. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on aille premièrement pour nos besoins personnels. Il veut qu'on aille à lui pour avoir une relation avec lui. Une relation avec celui qui donne. Une relation avec celui qui nous bénit. Quand on arrive au Seigneur, avez-vous remarqué ça? Dieu nous bénit, hein? Il nous délivre de toutes sortes d'affaires, il nous délivre de choses, il nous délivre de toutes sortes d'affaires. Puis tout d'un coup, paf, les grosses bénédictions, on dirait que ça arrête. Là, on pense qu'on n'est pas correct, mais ce n'est pas qu'on n'est pas correct. C'est qu'il veut qu'on marche par la foi maintenant et non par la vue. Hein, il veut que maintenant on développe notre relation avec lui et qu'on n'aille pas juste au Seigneur pour être béni. Pour être béni. Mais des fois aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit à des gens, « Viens à l'église, Dieu va rencontrer ton besoin. » Mais après qu'il a rencontré son besoin, on devrait lui dire, « Reste à l'église, à cette heure, il veut une relation avec toi. » Mais des fois, on oublie cette deuxième affaire-là. Comme j'avais dit avec mon ami Roger n'avait pas de job, pas de char. Moi, je parle de ça à Jocelyn Binette. Ah, il dit, puis lui, ça faisait un an qu'il ne travaillait pas. Puis là, il vient à rencontre maison, je parle de ça. Je parle de ça à Jocelyn. Ah, il dit, oui, je pense. Dans la même semaine, il trouve une job à Mirabel comme diriger tous ceux qui surveillaient l'aéroport à Mirabel. Il trouve une job terrible. Après ça, il vient à l'autre rencontre maison la semaine après. Bien, il dit, j'ai pas de char. Parce que là, il se faisait voyager par des amis. On prie. Il revient chez eux. La voisine est sur le balcon. Puis elle dit, Roger, comment ça va? Oui, bien, ça va bien, mais là, il dit, j'ai pas de char. Bien, elle dit, moi, de prêter l'argent, tu me le rembourseras tant par mois. Ça achète un char. Là, je ne vois plus Roger. Deux, trois semaines après, je pense à Roger. Je l'appelle. Je dis, Roger, comment ça va? Ah, il dit, ça va bien. J'ai dit, tu viens plus aux rencontres maison? Non, non, il dit, Dieu m'a tout rencontré mes besoins, c'est un. J'avais oublié de dire que ce que Dieu voulait en premier, c'est son cœur. C'est d'avoir une relation avec lui. Fait qu'est-ce que ce verset-là nous montre? Ça nous montre que l'emphase, ça ne doit pas être mis sur la satisfaction de nos besoins personnels. C'est la première chose que Satan a tenté Jésus, de se satisfaire son besoin personnel de manger. C'est pas pour rien que dans Jean 6, 33, ça dit pour nous, chacun de nous, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Puis il en parle d'un verset avant, c'était quoi toutes ces choses? C'était le manger, le boire, l'habillement. Ça nous sera donné par-dessus. « Cherchez premièrement, premièrement. » Le peuple d'Israël a vécu la même chose dans le désert. Les autres, ils voulaient de la manne. Donne-nous de la manne! Mais Dieu, il leur a donné de la manne. Donne-nous des cailles! Il leur a donné des cailles. Mais qu'est-ce que Dieu voulait à travers ça? C'est qu'ils développent une relation avec lui. Mais eux, ils voulaient juste voir le Dieu qui bénissait. Puis s'il ne bénissait pas, ils disaient, ça ne marche pas. Mais Dieu veut une relation. La tentation de chercher les bénédictions au lieu de chercher le Dieu des bénédictions. Amen. C'est la première tentation que ça nous apprend. La tentation de chercher les bénédictions. Mais Jésus répond par la parole et dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que Jésus, il était venu, non pas pour satisfaire ses besoins, mais il était venu pour donner sa vie. Il était venu pour faire la volonté de son Père. C'était ça, sa mission. Deuxièmement, Matthieu 4, 5 et 7, la deuxième chose, ça dit, il fut tenté d'utiliser la parole de Dieu pour sa gloire personnelle. Hein, ça dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Hey, c'est le diable qui cite la Bible, hein? C'est Satan qui cite la Bible. Satan est au courant. Comme j'ai dit l'autre fois, le dimanche matin, Satan, il est le premier arrivé ici. Puis écoute, s'il ne peut pas mettre de la division entre les frères, entre les sœurs, puis la bisbée, puis les affaires, puis il connaît la parole, il dit ça à Jésus, là. Il n'est pas gêné pantoute, hein? Il dit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les autres? Ils disent, Jésus, jette-toi en bas. Hein? Puis t'as rien qu'à dire aux anges de venir te porter, puis ils vont te porter, puis il n'y aura pas de problème. Fais un petit miracle. Utilise tes dons. Utilise tes dons que Dieu t'a donnés. Ah oui, Jésus, fais-les. Puis, utilise ses dons pour montrer sa divinité. Mais dans notre société, souvent, beaucoup de gens, on utilise nos dons, nos capacités pour montrer notre valeur devant Dieu. Au lieu de chercher la gloire de Dieu, beaucoup de gens dans notre société cherchent leur propre gloire. Cherchent leur propre gloire. Trouvons des gens qui ne cherchent pas leur propre gloire ou qui veulent faire l'étalage de leurs dons. Des fois, je vois sur Internet, des fois, je regarde ça. Puis là, aujourd'hui, là, c'est un étalage de dons et de titres. Je regardais ça l'autre jour. Des apôtres, des évêques, des prophètes, des patriarches, des bishops, des archibishops. Là, tu regardes ça, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Beaucoup suivent les dons. Mais suivons Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ. Dans un article de David Wilkerson, lorsqu'il a écrit la vision en 1974, il avait écrit quelque chose, puis ça m'a touché. Il disait, « Dans les derniers jours, le plus grand besoin ne sera pas des prédicateurs puissants, mais ce sera de trouver des bergers. Ce ne sera pas des hommes avec un titre, mais ce sera des hommes avec un cœur. Ce ne sera pas des voix qui font trembler les foules, mais ce seront des épaules qui portent les brebis. Car la fin des temps ne produira pas seulement la persécution, elle produira l'instabilité, des doctrines nouvelles, des révélations spectaculaires, des ministères sortis de nulle part. Puis là, je passe tout ce qu'il a dit, parce qu'il n'a écrit, bien, c'était vraiment une prédication. Il dit, le test des derniers temps ne sera pas seulement doctrinal, il sera pastoral. Puis aujourd'hui, frères et sœurs, suivons des gens qui suivent Jésus. Suivons des gens qui suivent Jésus. Ne recherchons pas des gens qui ont super dons, super talents, s'ils ne donnent pas la gloire à Dieu. S'ils donnent la gloire à Dieu, c'est parfait. Mais s'ils ne donnent pas la gloire à Dieu, ne les suivons pas. Suivons Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ. La tentation de Jésus ici, c'était faire un miracle pour lui-même. Faire un miracle pour montrer ses dons, pour montrer qu'il était Dieu. Ordonne aux anges qu'il porte. Matthieu 20, 28. L'as-tu marqué? Jésus lui répondit aussi, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Non, je ne l'ai pas écrit. Bien, moi, vous le lire d'abord. Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa rançon pour la vie de plusieurs. Amen. Il était venu non pour être servi, mais pour servir, pour être un serviteur. Non pas pour que les anges le servent, non pas pour montrer sa gloire, mais pour montrer sa volonté, qui était venu pour faire la volonté de Dieu. Volonté de Dieu. Aujourd'hui, suivons des gens qui, au lieu de promouvoir leurs dons, vont promouvoir la gloire de Dieu. Le troisième point, ça dit, il fut tenté d'accomplir le plan de Dieu par des méthodes qui ne sont pas de Dieu. Matthieu 4, le diable le transporta encore sur une autre montagne, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et si tu m'adores. Le diable veut donner tous les royaumes à Jésus. Mais pourtant, dans le psaume 2, déjà, Dieu dit qu'il va donner tous les royaumes au Seigneur. Hein? Je te donnerai toutes les extrémités de la terre comme possession. Mais Satan, lui, veut y donner, là, s'il l'adore. Qu'est-ce qu'il voulait faire là, dans le moment, Satan? Il voulait que Jésus abandonne le plan de Dieu. Hein? Je vais tout te donner ça. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. Tu n'as pas besoin de donner ta vie. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Si tu m'adores, je vais tout te donner. Tu vas pouvoir passer outre à ce que tu vas devoir souffrir. Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit. » C'est autour de Jésus qu'il dit « Il est écrit ». Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Qu'est-ce que ça nous parle de ça? Ici, la tentation, c'était de dire à Jésus, l'agonie de la croix, oublie ça. Je vais te donner le royaume, si tu m'adores, tu ne seras pas obligé de donner ton sacrifice à la croix. Tu ne seras pas obligé de souffrir pour l'humanité. Tu ne seras pas obligé de faire ça. Abandonne le plan de Dieu. J'ai d'autres plans pour toi. Mais aujourd'hui, la tentation est là encore aujourd'hui. C'est la tentation aujourd'hui de ne plus prêcher la croix, de ne plus prêcher la repentance, de nous emmener dans des séminaires qui vont nous, tu sais, pour nous parler de notre destinée, de nous parler qu'on est capable de s'améliorer nous-mêmes, mais d'oublier de parler des sujets comme la folie de la croix, dirait Paul. La folie de la croix. D'oublier de prêcher les choses essentielles. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La mort à nous-mêmes. Aujourd'hui, on veut des fois prêcher un évangile avec les succès matériels. avec le développement personnel, en oubliant tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Il y a un prédicateur qui s'appelle Paul Washer, il a dit, « S'il y a une chose que fait la prédication évangélique contemporaine, c'est de diminuer Dieu et d'augmenter l'homme. » Et ça, c'est dans notre génération d'aujourd'hui. On diminue l'œuvre de Dieu, puis on augmente l'œuvre de l'homme. C'est dans notre génération aujourd'hui. Mes frères et sœurs, l'homme doit diminuer, comme disait Paul, et Dieu doit grandir. Et Dieu doit grandir. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la repentance. L'Évangile, c'est encore la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom pour lequel on peut être sauvé. Il n'y en a pas une restauration personnelle. Le succès matériel ne nous amènera pas au ciel. C'est la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ. N'oublions pas. Ne cherchons pas les méthodes humaines. Oublions ces méthodes. Accomplir le plan de Dieu par des méthodes qui n'est pas de Dieu, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fait juste flatter l'ego. Ça fait juste flatter l'ego. Le quatrième point, ça dit, il fut tenté de parler inconsidérément. Il fut tenté de parler inconsidérément. Puis la semaine passée, j'ai été tenté de parler inconsidérément. Hein? Quand est-ce que Jésus a été tenté de même? Dans Luc, ça dit, quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment. Violemment. Et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Hein, il essayait de le prendre dans des pièges, puis là, il parlait à tour de rôle. C'est ça que j'ai vécu la semaine passée. Un n'avait pas fini, que l'autre commençait, que là, ma belle-sœur revenait. Ça a monté là, tu sais. La Bible nous dit, évitez les discussions oiseuses, les arguments provoquants. Proverbe 12, 18, ça dit, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, la langue des sages apporte la guérison. » Proverbe 13, 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Aujourd'hui, dans notre société, avec les réseaux sociaux, avec tous les blogs, toutes sortes de choses, on encourage les gens à s'exprimer sur n'importe quoi, puis à dire tout et rien. Puis à penser qu'ils l'ont vu sur Internet, c'est correct. Des fois, on a des discussions à la maison, puis les gens, ils ont vu des choses sur Internet, puis là, ils sortent ça comme si ça serait une vérité. Puis tu ne peux plus lui parler parce qu'ils savent tout, puis ils ont tout vu, puis ils ont tout connu. C'est le gros problème de notre génération d'aujourd'hui. Les gens, ils voient des choses comme ça sur Internet, puis là, on dirait qu'ils savent tout sur le sujet. Je parlais tantôt, justement, comme il me disait, justement, mon beau-frère, il dit, c'est un sataniste qui a écrit la Bible, la Bible King James. Ben, j'ai dit, où t'as pris ça? Fait que là, il me dit, j'ai pris ça sur Internet, puis je l'ai vu, c'était vrai. Mais, j'ai dit, oui, t'as vu ça sur Internet. Mais c'est pas ça, la vérité. Il a dit la vérité. La Bible King James a été écrite par 49 auteurs différents dans le temps d'Henri VIII. Henri VIII vivait au 16e siècle. Okay? Puis, il y avait un de ses beaux-frères ou de ses amis qui était un sataniste. Puis que plus tard, ça a donné les francs-maçons qui, au début des années 1700, okay, eux utilisaient la Bible King James. Fait que les autres, là, ceux qui écrivent des choses sur Internet, ils mettent tous ensemble. Puis ils disent, ça a été écrit par un sataniste. Puis là, ils prônent ça comme étant la vérité. Mais ils ne regardent pas des fois jusque où. Ils ne regardent pas, ils regardent juste ça. Il fut tenté de parler inconsidérément. Mais Jésus leur parlait de la volonté de son Père. La volonté de son Père. J'avais lu une petite histoire. Il y a 2000 ans, ils se faisaient la barbe comme aujourd'hui. Hein? Faites-vous la barbe, les gars? Bon, c'est un gars qui s'appelait Faucion. Il devait se mettre de la lotion, lui, hein? Il s'appelait Faucion. Puis là, il était assis sur le barbier, hein, à Rome. Puis là, il attendait son tour pour se faire faire la barbe. Puis pendant qu'il attendait son tour, le barbier est en train de faire la barbe à quelqu'un d'autre. Puis là, il est en train de tout y compter ce qui se passait à Rome. Hein? Toute l'actualité politique est en train d'y passer. Ça vous arrive-tu, ça, quand vous êtes chez le coiffeur? C'est rendu, il faut que j'y aille à tous les mois, puis c'est ça qui m'arrive. La madame a dit tout ce qui se passe dans le village. Ça fait que là, mon Faucion, il attend. Puis quand c'est arrivé son tour, le coiffeur, il dit, « Faucion, comment tu veux que je te fasse ça aujourd'hui là-bas? » Il dit, « En silence, en silence. » Il était tanné d'entendre parler de toutes sortes de choses comme ça. La Bible, elle nous dit, « Soyons prompts à écouter et lents à parler. » Mais nous, on est lents à écouter, puis on est prompts à parler. C'est notre génération d'aujourd'hui. Mais Jésus a été tenté de parler inconsidérablement. En tout cas, j'ai de la misère avec ce mot-là. Le cinquième point, ça dit, ça c'est un verset aussi, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Le cinquième point, Jésus fut tenté de se sauver lui-même en abandonnant la croix. Les gens disaient, lorsqu'il a été crucifié, il dit, « Toi qui détruis le temple et qui l'a rebâti en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, se moquaient de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est un roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Et Jésus s'est confié en Dieu, et s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Vous voyez les accusations? Sauve-toi toi-même, Jésus. Sauve-toi toi-même. Lorsqu'on arrive au Seigneur, on s'engage à mourir à nous-mêmes. Galates 2:20, ça dit, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais aujourd'hui, il essaie de porter sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, porter sa croix? Ça veut dire vivre pour le Seigneur. Le laisser vivre de plus en plus en nous. Le laisser nous changer, nous transformer. Mais aujourd'hui, la tentation de dire, non, c'est plus important. C'est plus important. Il fut tenté de se sauver lui-même en abandonnant la croix. Mes frères et sœurs, dans notre génération, on a beaucoup de croyants qui tentent de se sauver eux-mêmes par leurs œuvres, tentent de se sauver eux-mêmes par leurs bonnes actions, de se sauver eux-mêmes. Je suis correct, je fais les bonnes choses, puis même les croyants. Mais on ne peut pas se sauver nous-mêmes. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. On ne peut pas se sauver nous-mêmes. La Bible dit dans Luc 9, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. On doit mourir petit peu par petit peu. On doit mourir petit peu par petit peu. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. La sauvera. Hébreux 13, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple pour son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. L'opprobre, le mot opprobre, ça veut dire humiliation. Humiliation. Christ a été humilié jusqu'à la mort sur la croix. Mais aujourd'hui, porter son opprobre, souvent dans nos pays, Nous, c'est juste l'humiliation de se faire dire qu'on est croyant, qu'on n'est pas capable de vivre notre vie nous-mêmes, qu'on a besoin d'une béquille. Se faire moquer au nom de Dieu. Mais Dieu a un plan pour notre vie. J'avais écrit quelque chose aujourd'hui, si je peux le retrouver. Je l'ai perdu. Mais ce que j'avais écrit, c'est que nous, on est bénis dans notre pays. On est bénis. On ne se fait pas persécuter. On ne se fait pas narguer. On ne se fait pas tuer pour notre foi. Et hier soir, c'est pour ça que je l'ai écrit, mais je l'ai perdu, là, parce que c'était hier soir. C'est arrivé sur mon Internet, puis c'était écrit que dans une province en Inde, hier, ils ont brûlé 20 églises. Puis là, ils s'attendaient d'en brûler 200 autres dans les jours à venir. Puis dans un autre pays, la madame, elle me disait que des croyants, ils sont torturés, puis ils sont mis à mort. Nous, on est bénis ici. On est bénis. On est bénis de vivre dans un climat de paix, de calme. Porter notre croix, c'est juste de se faire humilier pour dire, « Ben oui, tu crois à ces affaires-là, toi? » C'est juste ça qu'on a de grosses persécutions, pratiquement. Endurons ça joyeusement. Portons le nom de Jésus-Christ avec honneur. Avec honneur. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan. En conclusion, je regardais ça, je me disais, on a une tentation de mettre l'emphase plus sur nos besoins personnels. C'est pour chacun de nous, ça. Que notre relation avec Dieu. Mettons l'emphase sur notre relation. On est tenté de suivre ceux qui utilisent la parole pour eux-mêmes. C'est une tentation de nos jours, de suivre ceux qui utilisent la parole pour eux-mêmes. Mais suivons ceux qui suivent Jésus-Christ. Puis que la parole, c'est pour amener les gens plus proches de Dieu, plus près de Dieu. La tentation de prendre des méthodes qui ne sont pas de Dieu pour servir Dieu, mais plutôt des méthodes des hommes. N'allons pas dans cette tentation-là. N'allons pas. Le plan de Dieu, Dieu a un plan, Dieu a ses méthodes. C'est encore le salut en Jésus-Christ. C'est encore la repentance par la foi. C'est encore le plan de Dieu pour aujourd'hui. On a la tentation aussi de trop parler. Je n'emploierai pas d'autres mots. On a encore la tentation de trop parler lorsqu'il vient des choses. Mais prenons le temps de demander au Seigneur de nous donner sagesse, de nous donner une sagesse. On est tenté de se sauver nous-mêmes, essayer avec notre chair de s'améliorer, si on peut dire. De s'améliorer. Mes frères et sœurs, on ne peut pas s'améliorer. Il faut mourir. Parce que s'améliorer, ça va revenir plus profondément, puis ça va revenir, puis ça va revenir. Il faut mourir à nous-mêmes. Jacques, il dit que Dieu ne nous tente pas. Mais souvent, on est amorcé par nos propres convoitises. Mais que Dieu, qui est fidèle et juste dans Corinthiens, va toujours, il ne nous tentera jamais au-delà de nos forces, puis il va toujours permettre le moyen qu'on puisse s'en sortir. Toujours le moyen qu'on puisse s'en sortir. Ce matin, 5 tentations que Jésus a été tenté comme nous-mêmes, sans péché. Ça veut dire que Jésus nous comprend. Jésus nous comprend. Lorsqu'on est en tentation, Jésus sait qu'on est tenté, parce qu'il l'a vécu avant nous. Puis puisqu'il sait qu'on est tenté, allons à lui. J'ai dit au début que des fois, lorsqu'on est tenté, on a la tentation de se retirer. On est tenté de s'éloigner de Dieu. Lorsqu'on est tenté, puis que lorsqu'on sait qu'on n'est pas totalement dans la volonté de Dieu, on est tenté de s'éloigner. Des fois, on est tenté d'abandonner. Mais faisons le contraire. Allons à Jésus-Christ, qui nous comprend, puis est capable de faire une œuvre qui est capable de nous délivrer, qui est capable de nous bénir à travers toutes ces choses. Allons à lui. Amen. On va prier le Seigneur ce matin. Puis ensuite, on va prendre la communion. Puis si ce matin, si ça vous parle, juste aller à Dieu et dire, Seigneur, j'ai un peu de misère dans ça, moi, mais toi, tu es Dieu, tu es grand, puis tu es capable de m'aider dans toutes choses. Allons à lui, mettons-nous en paix avec lui, prenons la communion et retrouvons notre joie avec Dieu, notre paix avec Dieu. Alléluia, Seigneur. On va demander aux musiciens de s'avancer pour qu'ils puissent préparer nos cœurs à travers un chant pour la communion. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, que Jésus peut nous comprendre ce matin, puis compatir à nos faiblesses, et puis qu'il peut connaître toutes choses qu'on vit afin de pouvoir nous aider dans toute situation, pour sa gloire et pour son honneur. Et ce matin, si on a des difficultés dans les points qu'on a parlé, allons à Jésus. Demandons-lui pardon, revenons à lui de tout notre cœur. Et Jésus est fidèle et juste de nous pardonner, de nous purifier, de nous ramener dans cette communion avec lui. Pour sa gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.